sur les traces d'Hélène Baer et Estelle Mouflarge avec Karine Baranès-Bénichou et Bastien François. Karine Baranès-Bénichou a contribué à la publication des œuvres complètes d'Albert Cohen dans la collection La Pléiade. Et elle a fondé l'association Femmes, Artistes et Mémoire Juive. Bastien François est professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je les ai réunis aujourd'hui pour évoquer deux vies broyées par la Shoah. La vie d'Hélène Baer et la vie d'Estelle Mouflarge. Depuis la publication de son journal par Mariette Job en 2008, le nom d'Hélène Baer est connu. Elle est entrée par la grande porte dans la mémoire commune. D'Estelle Mouflarge, en revanche, personne ne savait rien avant le livre de Bastien François, précisément intitulé « Retrouver Estelle Mouflarge ». Qui était donc cette jeune fille née à Saint-Ouen le 31 octobre 1927 et déportée à Auschwitz le 28 octobre 1943, Bastien François? Et comment se fait-il que, sortant du droit chemin de votre spécialité, vous ayez consacré tant d'années de votre existence à suivre sa trace?
C'est une rencontre, en fait. Vous savez, dans la vie, sur les bancs d'une école, au supermarché, chez des amis, on rencontre des gens et on ne sait pas, quand on les rencontre, que ça va devenir des gens importants. On ne sait pas que ça va devenir votre épouse ou votre meilleur ami. Et moi, il se trouve que un soir de février 2014, j'ai rencontré en quelque sorte, alors sur Internet en fait, j'ai rencontré une adolescente. Alors évidemment, la particularité, c'est qu'elle était morte, hein, il y a un peu plus de 70 ans. Une adolescente qui s'appelait Estelle Mouflarge et qui est rentrée en fait dans ma vie. Alors c'est un peu compliqué à raconter, hein, quand quelqu'un rentre dans votre vie, quand vous rencontrez, comme je disais tout à l'heure, une jeune femme qui va devenir votre épouse, un garçon à la cour de récré qui va devenir votre meilleur ami. Moi, j'ai rencontré Estelle Mouflarge et je pourrais pas dire dans la seconde qui a suivi, mais disons dans les heures, dans les semaines qui ont suivi, elle est devenue incroyablement importante pour moi, au point que j'ai voulu savoir tout simplement qui elle était. Je trouvais rien, en fait. Il y avait aucune information, très peu d'informations. Je suis allé au mémorial de la Shoah à l'époque. Ils savaient effectivement sa date de naissance, où est-ce qu'elle était née, le convoi qu'elle avait emprunté pour aller à Auschwitz, mais il n'y avait rien d'autre. Et donc là, je me suis lancé dans une entreprise dont je n'imaginais pas qu'elle durerait autant d'années. Je veux dire, quand je me suis lancé dans... Je suis parti à la recherche d'Estelle, je pensais que ça durerait quelques semaines, ou éventuellement quelques mois. Et effectivement, ça m'a amené jusqu'à ce livre qui est sorti, donc, 10 ans, pile, après ma rencontre avec elle.
Voilà. Alors, la rencontre, c'est aussi née d'une coïncidence. Elle habitait...
Voilà, alors, elle habitait...
Rue Caulaincourt. Oui. Tout près de chez vous.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai dit que je l'ai rencontré sur Internet, c'est qu'en lisant dans Le Monde, il y avait un article dans le journal Le Monde qui disait qu'il y avait un site Internet où on pouvait trouver une carte, où on pouvait trouver les enfants déportés. Et donc, je suis allé sur ce site par curiosité et j'ai rentré le nom de ma rue. Et en rentrant dans le nom de ma rue, il y a un seul nom qui est sorti. C'était son nom. Évidemment, je suis tout de suite allé regarder qui elle était. Elle habitait au-dessus d'un café où je vais assez souvent, à une trentaine de mètres de chez moi. Et évidemment, après, le lendemain, je passais devant ce café. Donc, je regardais, tiens, Estelle Mouflarge habitait là. Je revenais de la Sorbonne, tiens, Estelle, voilà. Et donc, petit à petit, il y a cette dimension aussi de voisinage.
Oui, c'est ça, la dimension voisinage.
Oui, c'est très important. C'est-à-dire que petit à petit, sans que j'y réfléchisse vraiment, ce quartier est devenu le quartier d'Estelle, enfin, notre quartier. À tous les deux. Et donc, j'ai essayé de le penser dans les pas d'Estelle, dans ses trajets, etc. Et donc, j'ai commencé à l'habiter comme si je l'habitais avec elle.
Alors, en vous écoutant, je pense à Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et aussi, vous citez Aaron Appelfeld, qui définit toute son œuvre comme un acte de rébellion contre l'effacement qu'a voulu provoquer l'extermination. Alors, pour vous, Karine Baranès-Bénichou, comment s'est faite la rencontre avec Hélène Baer, vous avez co-dirigé avec Maria Job un livre intitulé « Ce souvenir d'Hélène Baer ».
Comment s'est faite la rencontre ? Il faut remonter un petit peu en arrière en disant que, à l'origine de ma démarche mémorielle, il y a une histoire familiale, celle de mon oncle, le frère aîné de mon père, qui a quitté sa Tunisie natale et ensoleillée pour arriver à Paris dans des conditions un peu romanesques. Et malheureusement, le roman tourne à la tragédie puisqu'il est arrêté, déporté et assassiné à Auschwitz. Donc j'ai grandi avec cette mémoire de la Shoah dans mon enfance, dans mon adolescence. Et je me suis construite aussi avec d'autres lectures qui n'avaient rien à voir avec cette période de l'histoire. Et je me suis construite avec mes études de lettres à la Sorbonne, avec mes lectures, avec les épreuves de la vie aussi. Et je découvre en premier lieu le journal d'Eti Ilsoum, dans sa version abrégée.
Oui. Une vie bouleversée.
Une vie bouleversée. Et là, j'ai un vrai moment d'éblouissement, parce que cette jeune femme, justement, cristallise en quelque sorte les deux composantes de ma personnalité, la mémoire de la Shoah et l'histoire d'une femme. Et je suis bouleversée, mais je suis surtout saisie d'un sentiment que vous avez, je crois, ressenti aussi, Bastien, qui est l'injustice face à cette jeune femme qui n'a pas eu la chance de construire sa vie comme moi j'en ai eu la chance. Quelques années plus tard, je découvre Charlotte Salomon, même éblouissement pour son œuvre picturale qui est absolument sublime, et même sentiment d'injustice pour cet artiste qui n'a pas eu la chance de créer l'œuvre monumentale qu'elle aurait pu créer. J'essaye de les rassembler, j'essaye de parler d'elle en même temps, en conduisant ce fil d'Ariane sur la résistance par l'art. Mais ça ne marche pas. Et je comprends pourquoi ça ne marche pas, parce que quelques années plus tard, je lis l'article de Simone Veil « Pourquoi il faut lire Hélène Baer ?» Et là, je comprends que l'événement que je voulais créer à deux, en réalité, il faut qu'il ait lieu à trois. Et je les réunis, toutes les trois ensemble, sur la thématique de la résistance par l'art et de l'amour de la vie.
Oui, Eti Ilsoum, elle écrit dans « Une vie bouleversée » cette phrase elle-même bouleversante. « Et si Dieu cesse de m'aider, ce sera à moi d'aider Dieu. » C'est tout de même tout à fait extraordinaire. Comment la foi se maintient, mais dans cette espèce de renversement.
Absolument.
Où c'est l'homme qui devient.
Donc en quelque sorte, c'est un peu Eti Ilsoum et Charlotte Salomon qui m'amènent vers Hélène Baer.
Alors, ce sont deux univers. Elles se rejoignent dans la tragédie, l'une et l'autre. Mais ce sont deux univers complètement différents. Estelle Mouflarge, fille d'immigrés roumains, je crois.
Polonais.
Polonais, oui, polonais, pardon. Vient d'un milieu très pauvre. Son père était brocanteur. Son père est mort en 1939, vous nous en parlerez. Elle est recueillie par son oncle, Leib Schwartz, qui tient une toute petite boucherie. Alors c'est vraiment le prolétariat juif,
oui,
Estelle Mouflarge.
C'est assez représentatif de la population juive immigrée de l'entre-deux-guerres. Donc son père meurt en 36, en fait, à la suite de l'incendie. Il a un petit entrepôt où il dépose des meubles qu'il répare, etc. Enfin bon, il fait faillite, on dirait aujourd'hui. Bon. Et puis sa maman meurt en 39 de la tuberculose, qui est un peu la maladie de la pauvreté. Donc elle se retrouve orpheline et elle est effectivement recueillie par un oncle et une tante. Et lui a une petite boucherie, toute petite, dans le 18e arrondissement de Paris. Oui, ces deux mondes, c'est assez fascinant de... Alors, ces deux mondes qui laissent aussi des traces très différentes. C'est-à-dire que la grande bourgeoisie juive, ben, laisse des traces parce que y a beaucoup de correspondances, il y a beaucoup d'activités économiques qu'on retrouve, il y a des journaux intimes, etc. Bon. Estelle, comme beaucoup, beaucoup d'autres, comme beaucoup de gens déportés du même milieu, laisse vraiment aucune trace.
Elle était beaucoup plus jeune quand même.
Elle est beaucoup plus jeune. Ouais. Mais j'ai eu la chance de retrouver quelques courriers qu'elle a envoyés à son frère.
Bon. Oui.
Mais si je prends l'ensemble de sa famille, déporté. Franchement, il n'y a rien. On sait à peine ce qu'il faisait. En plus, c'est des activités économiques qui ne sont pas dans des entreprises, voilà, où il y a des comptes rendus de conseil d'administration, voilà, où plein de documents. Là, il n'y a rien.
Vous avez cette phrase magnifique, oui. Ne rien trouver prend beaucoup de temps.
Ben oui, bien sûr. Mais j'ai appris cette patience et en même temps, souvent on me demande, est-ce que tu n'étais pas découragé de rien trouver ?
Oui, c'est vrai. On se pose la question.
Oui, bien sûr. Mais en fait, je réponds chaque fois non. Parce que le temps que je passais, les semaines que je passais, les mois que je passais à ne pas trouver, je l'ai passé avec Estelle. ça peut sembler un peu curieux, hein. Et quand j'ai fini ce livre, ça m'a énormément manqué. Je l'ai donné, je vous le donne, je le donne à tout le monde, je donne Estelle, je la partage, mais en même temps, ce petit temps très intime que j'avais avec elle, très particulier, où j'étais dans des salles, des archives, où je prenais un petit café pour, de temps en temps, voilà, il fallait souffler, c'était du temps avec Estelle. Et donc, en fait, j'étais pas découragé, j'étais parfois frustré, mais jamais découragé.
Jamais découragé, et en même temps, vous n'avez pas de photos.
J'ai quelques photos.
Ah, quand même.
Oui, oui. J'en ai une que je mets là dans
ah, oui, c'est
au
vrai.
Début du livre. Bon. Et puis j'en ai quelques autres. J'ai mis celle-là en fait parce que c'est la photo de ma rencontre. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Donc pour moi, voilà. J'ai d'autres photos d'elle, mais qui sont un peu différentes, où elle est parfois un petit peu moins jolie. Donc j'ai choisi celle-là.
Vous avez bien fait. Donc c'est un tout autre milieu, en effet. Et le journal s'ouvre sur un moment extraordinaire. Mm-hmm. Vous allez nous en parler. Hélène Baird se rend au domicile de Paul Valéry et la concierge lui remet Autre Rhum, un recueil de Paul Valéry, avec une dédicace.
Absolument.
Du poète. Alors c'est quoi ça ?
Alors on bascule effectivement dans un tout autre univers. On est 5 avenue Élysée-Reclus dans le 7e, au pied du Champ de Mars. Hélène Baird vit en famille avec ses parents qui font effectivement partie de cette bourgeoisie juive attachée à un judaïsme traditionnel et en même temps très attaché, plus attaché peut-être même aux valeurs de la République et à ce patriotisme viscéral. Et ce matin-là, ce matin du 7 avril 1942, effectivement, Hélène Baird sort de chez elle, elle se rend dans le 8e, rue Villejuste, chez Paul Valéry, et elle va recueillir, en fait, le recueil Autre Rhum, ce qu'elle a laissé chez la concierge, avec cette dédicace absolument sublime, au réveil, si douce la lumière et beau ce bleu vivant. Et elle est tellement portée par cette citation.
Elle est inondée de joie.
Exactement, parce que cette citation lui colle à la peau. Mais ce qui est remarquable, c'est que quand elle rentre chez elle un peu plus tard et qu'elle se met à écrire dans son journal, elle recopie cette citation, mais elle y ajoute un « si » supplémentaire.
Oui, et si beau ce bleu vivant.
Et si beau ce bleu vivant, tellement elle est encore dans cette extase, dans cette euphorie. C'est son graal, cette citation. Et c'est son graal parce qu'elle est imprégnée de littérature, elle est imprégnée d'écriture, que c'est sa vie parallèle en quelque sorte. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que quand on lit Autre Rhum, en tout cas je n'ai lu que le début, eh bien Paul Valéry nous parle de cet instant un peu magique où l'esprit qui est en train de créer quelque chose oscille presque mécaniquement entre le rêve et la réalité. Et en réalité, c'est exactement la définition du bonheur selon Hélène Baird. Cet espace un peu flou entre rêve et réalité. Donc elle est inondée de joie. On comprend que cette jeune fille est faite pour le bonheur, qu'elle a plein de promesses de bonheur à accomplir et que malheureusement, elle va les laisser s'engloutir dans le flot de l'histoire.
Et la littérature,
ouais.
La culture en effet, ouais. Est omniprésente dans le journal. À la fin, de manière tragique, mercredi 24 novembre 1943, je crois. Ce matin, je lisais Shelley et sa défense de la poésie. Ouais. Hier soir, un dialogue de Platon, traduit par lui. Quel désespoir de penser que tout cela, tous ces magnifiques résultats de polissure, d'humanisation, toute cette intelligence et cette largeur de vue sont mortes aujourd'hui.
Absolument.
Donc, elle assiste, en effet,
ouais.
à la mort
ouais.
de la culture. Alors, pour Estelle Mouflarge, c'est tout à fait différent.
Oui, c'est...
Elle vient d'un milieu ouais. très pauvre. Mais elle entre en sixième.
Oui, alors.
Et ça, c'est
oui.
apprendre, c'est
et d'un milieu, surprise. Alors, et d'un milieu où,
Bastien François.
Beaucoup sont, non seulement parlent pas français, ni écrivent français, mais ils sont illettrés. La plupart des femmes, ce que j'ai pu reconstituer avec certitude, la plupart des femmes, mais aussi un certain nombre d'hommes, ne savent pas écrire, hein, c'est-à-dire savent pas signer de leur nom. Hein. Donc, on est vraiment au milieu de ce monde de la littérature, de la lecture, etc. Bon. Oui, alors, elle rentre en sixième. Ce qui est une sorte de petit miracle sociologique, parce que aujourd'hui on a oublié, mais sous la Troisième République, il y a deux écoles hein, publiques.
Oui.
Il y a l'école du peuple, hein, c'est la fameuse école laïque, gratuite, obligatoire. On va jusqu'au certificat d'études, quand on réussit, hein, il y a que la moitié des gens qui réussissent le certificat d'études.
Oui,
et puis, il y a la bourgeoisie qui va au lycée. Le lycée commence en 11e, et c'est payant. C'est assez cher. Alors, dans les années où Estelle rentre au lycée, le secondaire, c'est-à-dire ce qui commence en 6e, est devenu gratuit. Donc ça lui permet d'y rentrer. Mais effectivement, si vous regardez sur les effectifs lycéens, le nombre de fils d'ouvriers en France qui sont au lycée, c'est plusieurs centaines simplement sur toute la France.
Oui.
C'est extrêmement peu.
Mais ça veut dire que c'était une bonne élève, sans doute.
Ah oui, alors c'est vraisemblablement une bonne élève. Malheureusement, il y a toute une série de raisons, j'ai pas pu... les archives ont été détruites pendant la guerre, etc. Bon, les archives scolaires, c'est vraisemblablement une bonne élève. Il y a aussi, je pense, une stratégie familiale extrêmement... Il y a une vraie stratégie familiale d'ascension sociale par l'école, alors qui n'est pas propre du tout au milieu d'Estelle. Ces populations, juives, immigrés, etc., investissent énormément...
Dans l'école,
énormément. Mais là, il y a effectivement une stratégie. Alors, je sais pas très très bien au terme de quel... micro-choix, finalement, elle a basculé vers le lycée. Alors, elle se retrouve au lycée dans une position où elle est extrêmement minoritaire socialement. J'ai fait quand même l'analyse de ses camarades de classe, des métiers de leurs parents, s'ils avaient ou pas le téléphone, enfin, toute une série d'indicateurs qui montrent qu'en réalité, elle est sans doute, très vraisemblablement, la plus, je sais pas comment on pourrait dire, défavorisée ou du milieu le plus simple de tout le lycée Jules Ferry
oui. En 1940. Alors, j'ai pensé en vous lisant, et en lisant à travers vous la trajectoire des scènes mouflages, à Peggy, fils de rempailleuse de chaises, il ne faut pas oublier. Il était donc destiné aux primaires supérieures. Oui. Et le directeur de l'école normale primaire, il fallait qu'il fasse du latin. Et alors, voici ce qu'écrit Peggy dans l'argent. Le fils de bourgeoisie qui entre en sixième, comme il a des bonnes et du même mouvement, ne peut pas se représenter ce point de croisement que pouvait être pour moi d'entrer ou de ne pas entrer en sixième. Et il écrit « Ce que fut pour moi cette entrée dans cette sixième à Pâques, l'étonnement, la nouveauté devant Rosa Rosae, l'ouverture de tout un monde, tout autre, de tout un nouveau monde, voilà ce qu'il faudrait dire, mais tout cela m'entraînerait dans des tendresses. » Voilà. Alors, il n'en est pas de même pour Hélène Baire, qui vient en effet de ce milieu de la haute bourgeoisie, qui est déjà, elle a 20 ans, elle est extrêmement cultivée.
Elle étudie la littérature et les langues, la langue anglaise à la Sorbonne. Elle est brillante, elle est excellente.
Et elle n'a pas le droit de passer l'agrégation.
Elle n'a pas le droit de passer l'agrégation qu'elle voulait consacrer à John Keats, son poète phare. C'est un peu... John Keats est à Hélène Baire ce que Rilke est à Hetty Hillsum. On lui prédit un avenir dans l'écriture parce qu'elle a une grâce dans l'écriture qui est absolument remarquable. Elle a un sens de l'observation à la fois du monde extérieur et du monde intérieur qu'elle retranscrit de façon très gracieuse, très poétique. Et donc ses études, c'est vraiment la Sorbonne, c'est son fief, c'est son royaume, comme elle dit. Elle savoure ses études et elle place dans la littérature tous ses espoirs en réalité. Elle lit énormément.
Et elle cite Keats, oui. Une santé et une allégresse sans mélange ne peuvent être que le fait de l'égoïste. L'homme qui songe beaucoup à ses semblables oui. Ne peut jamais être joyeux.
Absolument.
Et cette citation prend un relief.
Bien sûr, parce que l'empathie, absolument, l'empathie, c'est un trait de caractère d'Hélène Baire qui est essentiel.
Oui, et alors autre chose sur Hélène Baire, elle consigne les événements intérieurs et les événements extérieurs. Oui. L'événement intérieur... C'est le bonheur de la rencontre de Jean Morawiecki.
Absolument.
Donc elle a des journées enchantées, ouais. Elle le dit, extraordinaires, mm-hmm. Des moments de bonheur absolu.
Ouais.
Elles se prennent dans Paris ou dans Aubergenville. Et puis on voit peu à peu l'extérieur colonisé, absorbé, dévoré l'intérieur. Et voilà, c'est ça l'histoire. En
absolument.
Réalité. L'histoire avec une grande hache.
Absolument. En fait, en 1942, elle parvient encore... à maintenir un équilibre entre justement sa vie sentimentale qui prend une tournure absolument flamboyante et les événements qui continuent d'être dramatiques. Le port de l'étoile jaune, la première arrestation de son père et la rafle du Veldiv, entre autres, en 42. Mais elle arrive à se maintenir à l'équilibre parce qu'il y a Jean à ses côtés et qu'elle découvre l'amour à ses côtés. En 43, c'est très différent. En 43, Jean a quitté Paris. Sa sœur, Denise, s'est mariée, devenue Denise
Job. Il est allé à Londres, Jean.
Non, il est allé dans le sud de la France et ensuite en Espagne.
En Espagne, pour résister.
Pour résister, pour rejoindre les forces françaises libres, absolument. Et donc, Hélène Baire, en 43, l'équilibre est très fragilisé parce que Jean n'est plus là, parce que sa sœur, Denise, s'est mariée et a quitté le domicile parental. Et puis, les événements, évidemment, deviennent de plus en plus tragiques. Donc, le journal bascule dans une autre dimension, teintée d'une solitude existentielle, teintée de douleur. Et il bascule aussi son journal dans le témoignage. Et Lemberg écrit alors pour témoigner,
voilà. Elle le dit,
pour laisser une trace.
Elle le dit.
Et aussi pour laisser une trace à Jean, parce qu'elle a décidé que si elle ne devait pas revenir, le journal lui serait remis. Donc c'est une façon de dire à Jean aussi, voilà ce que j'ai fait en ton absence, voilà ce que j'ai vécu en ton absence.
Oui, disons ce qu'il y a de très beau, et dans votre livre, Bastien François, et de beau et de tragique, bien sûr, dans le journal d'Hélène Baird, c'est qu'on voit, si j'ose dire, l'horreur avant l'horreur. Ce n'est pas la déportation, mais c'est l'étau qui se resserre peu à peu, et l'intense activité bureaucratique du régime de Vichy, et aussi des occupants allemands, qui, pour rendre la vie toujours plus difficile aux Juifs, Bastien François.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais on peut le comprendre, hein, on a tendance un peu à résumer la Shoah à des convois qui partent de Drancy pour aller à Auschwitz. Mais il faut pas être trop critique. Nous, si on a raconté aujourd'hui la guerre de 14-18, on la raconterait de façon extrêmement aussi simplifiée et stylisée. Bon. Or, en réalité, ça commence dès l'été 40, par toute une série de mesures qui vont monter crescendo, d'exclusion des juifs, des activités économiques, des activités sociales. Et l'exclusion des activités économiques, elle est extrêmement importante. Hein. On parle souvent des spoliations des œuvres d'art ou des instruments de musique, mais en réalité, la réalité de la spoliation, c'est d'abord le petit couturier à qui on prend sa machine à coudre, il a que ça chez lui, ou sa table à découper. Il peut plus gagner, rien, il est dans la misère. Hein. C'est-à-dire, on met des dizaines de milliers de personnes dans la misère, et effectivement, avec une activité bureaucratique tout à fait folle. Hein,
vous dites que 145 décrets ou lois relatifs à la condition des Juifs ont été produits par le régime de Vichy.
Oui, et, bon, et encore, Vichy, c'est pas le régime allemand.
Oui.
Non, mais par exemple, mais là, j'étais il y a pas très longtemps à Berlin, et où il y a une jolie, il y a une exposition, enfin, ils ont une façon d'exposer l'ensemble des textes qui ont été pris sur la question juive, où on rentre par exemple dans des détails, dans une dissertation à l'école, comment faire pour citer un auteur juif. Vous voyez, on rentre dans des détails complètement fous. Bon. Alors ça, c'est les Allemands. Mais nous aussi, on rentre dans des détails complètement fous, et petit à petit, effectivement, la population juive est saisie là-dedans. Bon, avec des degrés quand même de compréhension de la situation très différents. Ce qui est tout à fait fascinant chez Hélène Baird, c'est sa vision d'ensemble. Mmh. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a une vision d'ensemble de ce qui se passe, en tout cas sur Paris. Bon, le fait qu'elle soit à l'UJIF, c'est aussi important. Elle a une information un petit peu interne. Bon. Et par exemple, je pense que Estelle et les siens n'avaient pas du tout le même niveau d'information. Elle est vraiment extrêmement informée. Et en plus, comme elle a une très grande lucidité sur les événements, bon, elle nous livre un texte qui est en fait un document très important pour l'histoire. Bon, là, je pense que les populations juives étaient très inégales par rapport à cette répression, par rapport à l'information, par rapport à la capacité de fuite aussi, hein, faut pas oublier. Des familles comme celle d'Estelle n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, tout simplement. Ils n'ont pas les amis en province, ils n'ont pas l'argent.
Mais on voit quand même, comme je le disais tout à l'heure, les taux se resserrer. D'ailleurs, Hélène Baird le dit dans une entrée de son journal, les Juifs n'auront plus le droit de traverser les Champs-Élysées. Les théâtres et les restaurants sont réservés, et on apprend donc qu'il est interdit aux Juifs de fréquenter les établissements de spectacle, théâtre, cinéma, musée, mais aussi les bibliothèques, piscines, les jardins publics, les restaurants.
Oui, ils n'ont pas le droit d'avoir de bicyclette. Et pour elle, c'est une immense liberté de pouvoir rouler dans Paris avec sa bicyclette. Mais elle sait que si elle se fait arrêter sur sa bicyclette, c'est Drancy.
Et bien sûr, c'est Drancy aussi, si on n'a pas l'étoile jaune, ou si est mal cousu.
Bien sûr.
Et vous dites, Bastien François, donc il y a l'étoile jaune, mais aussi l'interdiction de posséder un vélo, vous l'avez dit, ou d'appeler d'une cabine téléphonique, l'obligation de prendre le dernier wagon du métro lorsqu'on est parisienne. Etc., etc. Et l'instauration d'un couvre-feu et l'interdiction de faire ses courses, sauf entre 15h et 16h.
Et ce qui est très beau dans le journal d'Hélène Baird,
oui,
mais aussi peut-être on en parlera dans une correspondance qu'elle a avec son ami Odile Le Burger, c'est que elle montre bien combien ses amis qui ne sont pas juifs ont du mal à comprendre le niveau de violence de toutes ces mesures d'exclusion. Et moi, je trouve ça extraordinairement touchant. C'est-à-dire que elle qui refuse les assignations identitaires, qui veut pas qu'on la considère simplement comme une juive, etc. Bon, elle est très blessée.
Plus que blessée. Elle utilise un mot qui est absolument foudroyant. Elle dit, la première fois qu'elle porte l'étoile jaune et qu'elle sort dans la rue et qu'elle voit ces regards différents qui se posent sur elle, parfois des regards de compassion, parfois des regards de rejet, de haine, elle dit qu'elle a un sentiment de crucifixion. Elle dit qu'elle a l'impression d'avoir un signe au fer rouge sur le front parce qu'elle se sent stigmatisée et justement sur un point identitaire qui pour elle ne fait pas débat, qui pour elle n'est pas une question.
Ça veut dire
qu'elle est juive, qu'elle se sent juive, mais qu'elle est tellement dans cette égalité des gens par rapport à la religion que elle assume le fait d'être juive. Et là, on la stigmatise, on la montre du doigt, alors que pour elle, c'est très naturel et ça ne devrait pas porter à.
Il lui arrive de dire aussi que cette différence n'a pas vraiment de sens.
C'est ça, exactement. Cette différence n'a pas de sens. Et là, on l'oblige à mettre le doigt sur une différence qui, pour elle, n'a pas de sens. Donc, c'est d'autant plus douloureux. Et effectivement, ses amis, la plupart sont compréhensifs. Parfois, certains sont un peu maladroits et regardent l'insigne en détournant un peu le regard. Et le seul qui compte, en réalité, à ses yeux, c'est Jean Morawiecki. Et Jean Morawiecki a une attitude, évidemment, très élégante à son égard. Lorsqu'il voit son étoile jaune pour la première fois, il ne réagit pas et elle le regarde dans les yeux et elle comprend que voilà, c'est il est dans la compréhension et dans l'amour de cette jeune femme.
Lévinas a écrit « Le recours de l'antisémitisme hitlérien au mythe racial a rappelé aux juifs l'irrémissibilité de son être. Ne pas pouvoir fuir sa condition Pour beaucoup, cela a été comme un vertige.
Bien sûr. Je crois que c'est Serge Klarsfeld qui dit que l'étoile jaune, c'était comme un ghetto intérieur. On ne peut pas dire mieux que ça.
Et elle dit aussi, pour montrer aussi sa solitude, beaucoup de gens se rendront-ils compte de ce que cela aurait été que d'avoir 20 ans dans cette effroyable tourmente, l'âge où on est prêt à accueillir la beauté de la vie, où l'on est tout prêt à donner sa confiance aux hommes. Et la beauté est interdite et la confiance est de plus en plus difficile à donner. Voilà. Alors, parlons plus précisément de ce qui est arrivé à Estelle Mouflard. Donc, son père meurt en 1936, vous l'avez rappelé, sa mère de la tuberculose, la maladie des pauvres en 1939. Elle est recueillie par son oncle qui a une petite boucherie et affiche jaune d'abord. Pour signifier quoi? Que c'est une boucherie juive, voilà. Et affiche rouge pour dire qu'elle va changer de propriétaire.
Voilà, qu'elle a changé de propriétaire. Bon, c'est ce qu'on va appeler dans le vocabulaire de l'époque l'arianisation. C'est-à-dire que le fait qu'on transfère la propriété d'une entreprise juive, entre guillemets, ça n'existe pas évidemment une entreprise juive, mais au sens antisémite du terme, on va le transmettre à un nouveau propriétaire qui est arien. C'est-à-dire que l'idée des autorités françaises, c'est que il faut pas nécessairement fermer ces entreprises, parce que ça aurait des impacts négatifs sur l'économie française. Donc on va, pour certaines d'entre elles, on va les fermer, tout simplement, et pour les autres, on va les transférer à un nouveau propriétaire arien. Donc c'est ce qui arrive à son oncle, mais c'est ce qui arrive aussi à des dizaines de commerçants ou d'artisans qui sont dans la même rue où il y a la boucherie, et à des dizaines de milliers d'entreprises, de petites entreprises la plupart du temps en France.
Mais tout ça se fait dans les règles, c'est-à-dire par exemple, ce transfert est opéré devant un notaire dont vous avez retrouvé la trace, Bastien François.
Oui, bien sûr.
L'administration voilà. Est là.
Et alors, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que j'ai travaillé sur quelles archives? J'ai travaillé sur les archives de la spoliation qui ont été conservées par le ministère des Finances à l'époque pour restituer ces entreprises, éventuellement personnes qui reviendraient des camps. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuité incroyable, c'est même les mêmes personnes qui faisaient la spoliation, qui à l'époque, en sortie de la guerre, vont s'occuper éventuellement de rendre ces entreprises. Donc il y a une sorte de continuité de l'État, en fait, ce qui est bon. Il y a le rôle des notaires, bon ça serait peut-être un peu long d'en discuter, mais il y a un très beau livre de Jérémy Foa sur la Saint-Barthélemy, qui est sorti il y a un an ou deux, où il travaille le massacre de la Saint-Barthélemy, donc contre les protestants, à partir des archives des notaires. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que c'est exactement la même chose. Les notaires se comportent exactement de la même façon.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'est comme si de rien n'était.
Ah oui.
Comme s'il ne se passait rien. Comme si on n'envoyait pas ça. Alors, comme si on n'avait pas massacré ces gens au moment de la Saint-Barthélemy, ou comme si on n'avait pas envoyé ces gens-là dans des camps. Voilà. Ils transmettent la propriété comme si de rien n'était. Alors évidemment, en gagnant de l'argent au passage. Hein. Si vous regardez les chiffres d'affaires des notaires, ils explosent dans ces périodes-là. Hein. Bon. Donc, oui, il y a quelque chose de tout à fait fascinant dans cette entreprise ultra-légale. Hein, parce qu'il faut rentrer dans les archives. Vous avez des milliers de courriers où il y a des discussions techniques. Ils se plaignent, on leur répond. Des contrôles bureaucratiques sur est-ce que c'est le bon prix auquel on a fixé l'entreprise, enfin, etc. Enfin, voilà. Donc là, effectivement, essayer de décrire le monde dans lequel vivait Estelle, ça m'a permis aussi de décrire cette entreprise gigantesque de spoliation de la population juive de l'époque.
Et tout ça s'est fait, en effet, de manière très minutieuse.
Bien sûr.
Et là, il y a une des plus belles citations d'Ellenberg, une profondeur inouïe, qu'on soit arrivé à concevoir le devoir comme une chose indépendante de la conscience, indépendante de la justice, de la bonté, de la charité. C'est la preuve de l'inanité de notre prétendue civilisation.
Absolument.
Elle écrit ça à l'âge de 20 ans.
Elle écrit ça à la suite, en fait, d'un témoignage qu'elle a recueilli d'un policier qui est venu arrêter un enfant et qui dit à une personne qui s'indigne, qui lui dit « Mais que voulez-vous, madame ? Je fais mon devoir. »
Ah voilà, c'est
ça. Et elle écrit, elle cite la citation que vous venez de donner à la suite de cet événement. Et en fait, Ellenberg, pour reparler du contexte, effectivement, où elle prend conscience des choses, elle est très informée parce que ses parents écoutent Radio Londres, elle est très informée parce qu'elle appartient effectivement à l'entraide temporaire dès 1941, dès 1942 à l'UGIF. Et dans le cadre de l'UGIF, elle est amenée effectivement à entrer à Drancy à deux reprises. Donc elle sait et elle est très active. C'est ça qui est très important de dire, c'est qu'Ellenberg n'a cesser d'œuvrer pendant cette période pour faire son possible. Chacun dans sa petite sphère peut faire quelque chose et s'il le peut, il le doit. C'est ce qu'elle écrit. Donc elle est active, elle dirige aussi un patronage d'enfants, elle est responsable des orphelins de Neuilly, qu'elle distrait, qu'elle amène à l'hôpital, dont elle se charge, qu'elle invite chez elle. Elle est sans arrêt active pour s'insurger contre la barbarie ambiante qu'elle voit arriver et qu'elle voit se produire à Paris, mais aussi en province, parce que là, grâce à l'entraide temporaire, elle sait aussi ce qui se passe en province, et elle sait ce qui se passe à l'étranger aussi. Elle parle du massacre de la forêt de Catine, elle parle de ce qui se passe aussi à l'étranger. Donc effectivement, elle est très informée, et le fait d'être informée l'invite, c'est l'éveil de sa conscience morale, en fait, auquel on assiste, et l'invite à faire au mieux pour consoler, pour contrer cette barbarie et pour décrire cette souffrance inacceptable à laquelle elle assiste et qui va finir aussi par l'emporter.
Elle est très informée, mais d'un autre côté, elle ne sait pas tout.
Non.
C'est-à-dire, même à la fin, elle dit « on déporte des familles entières pour créer un État juif d'esclaves en Pologne, sans songer que les gens n'auront aucune autre envie que revenir. » Donc, l'idée d'une extermination industrielle, elle ne l'a pas, elle ne le sait pas, cela.
Non, elle ne le sait pas, je ne pense pas.
Barnes, Benichou.
Je ne sais pas quel était son degré d'information sur l'extermination de masse. Elle sait, en 44, malgré tout, elle a connaissance de la Shoah par balle, à la fin de l'année 44, elle en parle. Donc, elle sait que c'est extrême. Elle le sait.
Elle le sait que c'est extrême, mais elle pense quand même qu'on envoie.
Mais de toute façon, elle a gardé.
Créer un État juif
oui,
en Pologne.
Oui, et puis elle a toujours eu surtout l'espoir d'y échapper. Malgré tout, elle a toujours eu l'espoir d'y échapper.
Jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin.
Alors, à lire vos deux livres, j'ai compris qu'une chose, enfin, que je sentais déjà, c'est l'isolement total des Juifs. D'ailleurs, elle le dit, elle parle de son isolement. Et là, ça m'a rappelé une autre réflexion de Lévinas. Il dit ceci, « Toujours on meurt seul et partout les malheurs sont désespérés. Et entre les seuls et les désespérés, les victimes de l'injustice sont partout et toujours les plus désolés et les plus seuls. Mais qui dira la solitude des victimes qui mouraient dans un monde mis en question par les triomphes hitlériens où le mensonge n'était même pas nécessaire au mal assuré de son excellence. Qui dira la solitude de ceux qui pensaient mourir en même temps que la justice, au temps où les jugements vacillants sur le bien et le mal ne trouvaient de critères que dans les replis de la conscience subjective, où aucun signe ne venait du dehors. Interrègne ou fin des institutions, comme si l'être même était suspendu. Plus rien n'était officiel, plus rien n'était objectif, pas le moindre manifeste sur les droits de l'homme, aucune protestation d'intellectuels de gauche, absence de toute patrie, congé de toute France, silence de toute église, insécurité de toute camaraderie. J'ai pensé à cela en lisant le journal d'Edenberg et bien les sûr. Textes que vous lui consacrez.
En même temps, je pense qu'elles sont quand même François. Très différentes. Bon, elles n'ont pas le même âge, évidemment, elles ne viennent pas du même milieu social. Estelle, je pense, enfin, pour ce que j'en sais, il y a une forme d'insouciance.
Quand même.
Oui, il y a une forme d'insouciance dans les petites traces que j'ai. Hein. Elle essaye de continuer à vivre normalement. Je pense qu'elle n'est pas très informée de ce qui se passe.
Voilà, c'est ça. Mais
Ellenberg aussi continue de vivre totalement normalement. C'est bien ça qui fait la différence, par exemple, avec le journal, évidemment, de...
Mais je vois, par exemple...
D'Etil et Soum.
Non, pas d'Etil et Soum. Je pensais à Anne Frank, parce qu'elle continue à vivre normalement.
Oui,
elle est...
Bien sûr.
Aussi libre qu'elle peut, dans les conditions évidemment des restrictions et des... Mais elle continue sa vie normalement.
Oui. Mais je vois, par exemple, chez... Là, peut-être on pourrait citer la correspondance d'Ellenberg avec Odile Neuberger, qui a été publiée chez Talendier. Alors, qui est assez intéressante, parce qu'elle va de 1934 à 1944, donc on a Hélène plus jeune. Bon. Et par exemple, il y a un moment, c'est le moment des accords de Munich. Mmh. On voit que ces gamines qui s'écrivent, qui sont des ados, quoi, des ados très cultivés, hein, qui montent des pièces de théâtre, etc. Bon. Mais on voit de la gravité qui apparaît, hein. C'est tout à fait fascinant. Bon. Je pense que c'est quand même une jeune femme, une adolescente, qui, à l'âge d'Estelle, est déjà un rapport au monde, une vision géopolitique, etc., que j'imagine Estelle n'a pas, hein. Donc, c'est assez intéressant. Cette correspondance est absolument éblouissante, hein, il faudra qu'on en dise un mot, mais.
Allez-y.
Vous la connaissez sans doute mieux que moi. Par exemple, pour moi, c'était intéressant parce que comme je l'ai à peu près à l'âge d'Estelle, à ce moment-là, enfin, je peux imaginer qu'elles sont très différentes parce que, évidemment, si je l'ai à 21 ans, il y a une différence d'âge, hein. Mais si je peux avoir Hélène à 16 ans ou à 15 ans et celle à 15 ans, ça montre bien des différences. Je vois, y compris dans le style, la façon d'écrire leurs lettres quand elles sont ados, c'est pas du tout les mêmes. Bon. Et ça me permet aussi de dire peut-être, et après il faudra dire un mot de cette correspondance qui est vraiment extraordinaire, mais un petit mot pour rappeler quand même, ça me semble être très important, que cette population juive persécutée, elle n'est pas du tout homogène. Ça me semble être très important de raconter cette histoire-là.
Hein. Oui,
et là, on a presque deux extrêmes.
Absolument.
Une population qui n'est pas homogène et une communauté de destin.
Oui, ouais. bien sûr, mais quand on dit les juifs, en réalité, on écrase beaucoup de choses, c'est-à-dire la façon dont les gens ont vécu ces événements, les représentations qu'ils en avaient, la conscience même de l'événement.
N'est pas la même.
N'est pas la même.
Sur la correspondance d'Ellenberg, un mot pour dire qu'elle est très complémentaire du journal et particulièrement pour ce qui est du début de l'année 1943, parce qu'il n'y a rien dans le journal à cette période-là. Comme je l'ai dit, Ellenberg traverse un grand moment de solitude existentielle à ce moment-là, mais on a les lettres qu'elle échange avec Odile Neuburger à cette même période. Donc c'est très complémentaire et on a dans cette correspondance... toute la fraîcheur de deux amis de longue date, des vraies déclarations d'amitié intense et en même temps leurs réflexions sur la vie, sur l'amour. Elles vivent deux expériences totalement différentes puisque Ellenberg est donc à Paris, dans le Paris occupé, alors que les Neuburger ont fait le choix de quitter la capitale et de se réfugier en zone libre. Donc elles ont deux expériences de vie complètement différentes. Ellenberg qui est très active, très menacée et Odile Neuburger qui se sent privilégié d'échapper à ces tensions et à cette expérience de la souffrance. Et...
Il y a un échange de lettres en avril, si mes souvenirs sont bons, entre Odile et Hélène, où elles discutent une petite dispute, on va dire, entre les deux filles, puisque Odile a un fiancé qui est juif, Jacques, hein, c'est ça. Et Jacques puis voilà. Et Hélène a son amoureux, dont on parle depuis tout à l'heure, Jean, qui en plus est d'origine lointaine polonaise. Elle l'appelle mon prince slave.
Hein, absolument. Voilà.
Et donc il y a une grande discussion pour savoir est-ce qu'on peut épouser quelqu'un quand on est juif qui n'est pas juif. Dans quelle religion doivent être élevés les enfants. Bon. Et donc il y a la position, disons, de Odile qui est assez conservatrice. Enfin, je sais pas. Enfin, par rapport à Hélène, hein, bon, c'est-à-dire qu'on se marie dans la même religion, on élève des enfants dans cette religion, et sinon ça pose un problème.
Hélène dit en fait que la différence de religion lui est moins importante que si ça avait été une différence de nationalité. Elle, ce qui lui importe, c'est cette adéquation entre Jean et elle, qui sont comme deux âmes sœurs au niveau de la culture et au niveau de. Et elle dit surtout que si elle envisage d'avoir des enfants avec Jean, et elle dit, je veux que les enfants que nous aurons ensemble soient élevés dans le judaïsme, mais dans le judaïsme que j'ai reçu de mes parents. C'est-à-dire un judaïsme très traditionnel, et elle écrit cette phrase, elle écrit un judaïsme qui ne nie pas le message du Christ. Donc pour elle, c'est important d'avoir cette base de judaïsme qu'elle a hérité de ses enfants et auquel elle est très de ses parents pardon de qu'elle est auquel elle est très attachée. Elle dit que c'est une elle parle des fêtes religieuses qu'elle connaît, elle regrette qu'on lui ait pas transmis d'autres fêtes religieuses, mais en même temps, elle est tellement ouverte d'esprit qu'elle a aussi une autre lecture de la question religieuse et qui se nourrit, oui, de textes, des évangiles. Mmh. Elle se nourrit de toutes sortes d'aspirations.
Et ça va même très loin, parce qu'il y a même un petit moment, une petite discussion sur... Donc il y a une discussion sur les étrangers. Mmh. Et à un moment, Odile lui dit, mais si c'était un Louis, les filles appellent comme ça, un Louis, c'est un Allemand. Et Hélène va jusqu'à dire, pourquoi pas, ça pourrait être un Allemand, mon amoureux, je pourrais être amoureuse d'un Allemand, alors évidemment sous certaines conditions, etc.
Évidemment.
Mais on est en avril 43, cette discussion est folle. Et d'une émotion, moi j'ai trouvé ce passage d'une émotion, parce qu'elles sont tellement intelligentes, ces deux filles, et elle est tellement, son intelligence du refus de l'assignation identitaire, moi ça me touche beaucoup. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'au moment où justement, enfin, c'est de toute beauté. Mmh. Et on voit après d'ailleurs que ça commence à craquer, ce refus-là. Il y a un moment où elle dit, elle résiste, je veux pas les haïr, je veux pas entrer, etc. Voilà, bon. Et puis bon, les dernières pages et de la correspondance et du journal sont.
Cette ultime citation de Macbeth, aurore, aurore, aurore. Alors parlons maintenant de la toute fin. Alors d'abord, Estelle Mouflarge, elle est déportée dans un convoi. Vous donnez les noms de tous ceux qui ont fait l'ultime voyage avec elle. Et ensuite, vous donnez, Bastien François, vous énumérez leur profession. Parce que dites-vous, c'est une société en modèle réduit qui est partie de Drancy le 28 octobre, garde-malade, courtier, employé, tricoteuse, représentant de commerce, etc., etc. Et c'est un texte extraordinaire parce que vous retrouvez exactement l'inspiration de Vassili Grossman dans ses carnets de guerre. Il parle des pogroms qui ont eu lieu en Ukraine, notamment à Kazari, et il fait cette espèce de litanie, massacrer les vieillards, les artisans, les maîtres renommés pour leur savoir-faire, tailleurs, chapeliers, bottiers, étameurs, orfèvres, peintres en bâtiment, fourreurs, relieurs, massacrer les vieux ouvriers portefaix, charpentiers, fabricants de poils, massacrer les amuseurs publics, les ébénistes, massacrer les porteurs d'eau, les meuniers, les boulangers, les cuisiniers, massacrer les médecins praticiens, etc., etc. La liste est très longue et il dit ceci, c'est le meurtre d'une immense expérience professionnelle élaborée de génération en génération par des milliers d'artisans et d'intellectuels plein d'esprit et de talent. Et sortir en quelque sorte de l'abstraction, du chiffre, donner des noms, donner des professions pour prendre la mesure de ce qui s'est passé, Bastien François.
Oui, c'est une société en fait qu'on assassine dans ce convoi. C'est toute une société. Et alors j'ai mis tous les noms que j'ai vérifiées. Hein. C'est pas, voilà, je suis allé les chercher un par un et essayer de trouver des photos. Ça m'a pris pas mal de temps. Ils sont 1000. J'ai mis tous ces noms parce que c'était pas possible. Estelle n'était pas seule. Je veux dire, à partir, au moment où elle a arrêté, c'est plus Estelle. C'est ce groupe. Et hier, j'ai reçu une lettre d'un monsieur qui me disait cette chose assez belle, qui me disait, parce que je l'avais pensé comme ça, qu'en lisant le livre, il a lu un par un
voilà,
les
un
noms
par un.
Comme une prière.
Un par un.
Comme
voilà.
Une prière.
Oui, il y a quelque chose.
Vous voyez, il y a quelque chose de oui. Cet ordre-là, c'est de rendre hommage, parce que ces gens, il y a quelques personnes connues dedans, mais il y a plein d'inconnus, c'est de leur rendre hommage, c'est-à-dire de leur dire, vous êtes encore là, vous êtes là, dans ma parole qui parle, dans ma tête, qui lit votre
livre. Il y a ça aussi dans le journal d'Ellenberg, dans la mesure où Ellenberg cite les noms et les prénoms, notamment des enfants dont elle a la charge. Le petit Wagenrieb, Doudou, enfin, elle les cite, elle les décrit pour laisser une trace de leur passage, parce que les oublier, ce serait les assassiner une deuxième fois. Donc, il y a aussi cette culture du nom dans le journal d'Ellenberg.
Alors, qu'en est-il, justement, de la fin, de la toute fin ? Sur Estelle Mouffarge, on ne sait rien. On sait qu'elle a été déportée à Auschwitz. Comment est-elle morte ? Est-ce qu'elle a vécu au camp ? Est-ce qu'elle a été gazée tout de suite ? Vous n'avez pas pu l'apprendre. Pour ce qui est d'Ellenberg, on en sait davantage.
Oui, on sait.
Alors,
qu'elle
que
a
s'est-il
été...
exactement passé pour elle ?
Alors, elle est déportée d'abord à Auschwitz, ensuite à Bergen-Belsen, mais elle n'a pas fait la marche de la mort.
Elle était évacuée à Bergen-Belsen.
Exactement. Et on a des témoignages même d'une personne, témoignages bouleversants d'une personne qui était dans le même baraquement qu'elle et qui a survécu et qui a dit qu'elle se souvenait très bien d'Hélène parce que Hélène disait toujours qu'elle s'appelait Hélène Baer et qu'elle insufflait la vie à ses camarades de baraquement en leur fredonnant des airs de musique pour leur éviter de basculer dans la souffrance et dans la folie.
Quand on dit musique, c'est musique.
Absolument, la grande musique. La grande musique. Et de savoir ça, moi, c'est vraiment le témoignage qui m'a le plus bouleversée. Et on sait qu'Ellenberg a contracté le typhus et que un matin d'appel, elle n'a pas eu la force de se lever, que ses camarades ont essayé de la porter à bout de bras, mais qu'elle était vraiment épuisée et qu'une gardienne du camp est venue et l'a frappée si violemment qu'elle en a perdu la vie. Donc elle est morte comme ça.
Elle est morte et quelques jours
avant la libération du camp par les Anglais.
C'était en 1945.
Absolument.
Donc elle a vécu quand même un an.
Absolument.
À Birkenau, je crois.
Non, c'était Bergen-Belsen.
Non, mais dans le camp où elle était précédemment.
Auschwitz. Auschwitz et ensuite, ensuite Bergen-Belsen. Et ses parents sont morts. Raymond et Antoinette Baer sont également morts. Sa mère en chambre à gaz et son père assassiné. On lui a inoculé, en fait, un poison et il est mort de cette manière à Auschwitz.
Estelle Mouffarge, on ne sait rien.
On ne sait rien parce que, en fait, au moment où les nazis ont quitté à Auschwitz, ils ont essayé, sous la pression des troupes soviétiques, ils ont essayé de détruire
d'effacer les traces.
Alors, il en reste encore, mais pour le convoi 61, on n'a rien.
Vous n'avez rien. Donc, voilà. On se sent.
Eh oui. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle n'est pas revenue.
On sait qu'elle n'est pas revenue, mais on ne sait pas si elle est restée, elle a vécu à Auschwitz, si elle est morte. On ne sait pas. Et d'ailleurs, ce livre se termine là-dessus. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et d'un autre côté, on en apprend beaucoup, malgré tout, sur Estelle Mouffarge. Et grâce à vous, elle existe aussi. Vous lui avez fait place dans la mémoire commune. Elle existe pour nous. On n'oubliera jamais Estelle Mouffarge. Un dernier mot, c'est quoi ce nom Mouffarge ? Parce que c'est curieux, c'est un nom tellement français.
Oui, c'est étonnant. C'est un nom qui s'écrit à l'origine Mufflars. Mais quand il est prononcé par un Polonais, ça donne Mouffarge. Donc l'hypothèse que je fais, c'est que les Mufflars, en arrivant en France, en 1920, arrivent, alors ça, que ce soit un policier ou un secrétaire de mairie, parce qu'à l'époque, il faut se déclarer à la mairie quand on est étranger, on lui demande son nom, il dit Mouffarge. Ça s'écrit Mufflars, mais comme il ne sait pas écrire, et le fonctionnaire retranscrit ce nom... qui devient Mouffarge, donc.
Et elle est née française, elle.
Non, elle n'est pas née française.
Elle a été
Oui, mais elle est née de deux parents étrangers.
Oui.
Donc, elle est née, elle n'était pas française lorsqu'elle est née, elle était polonaise. Alors, elle aurait pu bénéficier du droit du sol, comme ses deux frères ont bénéficié, mais il se trouve que ses parents ont demandé la naturalisation, elle a été mise dans le décret, donc elle a été naturalisée. Mais par exemple, ses deux frères, qui étaient dans la même situation, deux enfants d'un couple polonais, ont été naturalisés en vertu du droit du sol par ce qu'on appelait la déclaration à l'époque. On déclarait,
ah oui, d'accord.
Donc on devenait français.
Et elle n'a pas été dénaturalisée pour sa part, elle.
Elle n'est pas été... Alors, si, il y a eu un dossier de dénaturalisation, mais ce n'est pas allé jusqu'au bout parce que, en réalité, ses parents étaient morts, donc ils ont clos le dossier lorsqu'ils se sont rendus compte que les parents étaient morts.
Sur Ellenberg, évidemment, on connaît beaucoup, beaucoup de choses. Et il faut rappeler, en fait, que le travail d'enquête que vous avez mené, vous, Bastien François, moi, je n'ai pas eu à le mener parce que tout avait été fait auparavant par Mariette Job.
Voilà.
Et en fait, elle a retranscrit dans son dernier ouvrage, dans les pas d'Ellenberg, qui fait vraiment écho à votre titre, toutes les étapes qui ont conduit à la publication du journal depuis son adolescence, sa vie de femme, comment elle a mis au jour, en fait, la personnalité de sa tante. Et c'est un récit dans le récit.
Merci. Merci à vous deux. Donc, voilà, je voudrais rappeler le titre de votre beau livre, livre de piété, en quelque sorte, Bastien François, Retrouver Estelle Mouflard. Il est publié chez Gallimard. Le journal d'Ellenberg est publié par Talendier. Et je signale aussi le livre collectif Se souvenir d'Ellenberg, une célébration collective, justement, sous la direction de Mariette Job et Karine Baranès-Bénichou. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar et Lise Ripoche, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui, Loïc Duros. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Trump 2024. Mes invités seront Laure Mandeville et Dominique Moisy, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.